c'est vrai que déjà,
on sent des tas de choses ici. Hein. Déjà, il y a... C'est déjà très... On est déjà mis en mouvement dans l'imaginaire. Hein. Une espèce d'histoire qui commence à se raconter. Ça se racontait dès le départ avec la plateforme, espèce de radeau de la Méduse qui commence. Évidemment, cette grande longueur de bois qui appelle immédiatement hein, quand on est sur une sorte de ponton comme ça. C'est vraiment un voyage, le ponton.
Là, on voit très bien l'édifice, la ruine.
C'est fou ce que... Je pense que la ruine a toujours suscité l'imaginaire, puisqu'il y a eu tous ces peintres qui ont fait des ruines. Ça a été toute une époque, la peinture de ruines, avec les Hubert Robert et des peintres comme ça. Et puis tout le romantisme... du 19e. Mais c'est aussi parce que ce qu'on disait tout à l'heure avec Florent, c'est le fait que les choses ne sont pas dessinées droit, elles se poursuivent d'une certaine manière. Il y a ça, et puis c'est fou ce que ça se poursuit, comme un torse de antique. Dont il manque les bras, une partie des jambes. Alors, ces bras, qu'est-ce qu'ils faisaient? On ne sait pas. Mais il y a quand même, ils se poursuivent. Hein, alors, on ne sait pas. Et en même temps, ils se poursuivent. C'est curieux. On fabrique quelque chose qu'on ne sait pas. Précisément, c'est dans les choses que je cherche à faire, c'est là c'est un tracé qui est cassé, mais qui n'est pas interrompu net. C'est une interruption qui n'est pas nette. Dans la sculpture, là c'est pas une cassure dans la mesure où c'est moi qui décide, mais je cherche quelque chose comme ça. Cette bordure. De trouver une bordure qui est tout autant quelque chose qui vient du dedans, mais qui vient du dehors. Et qui, l'un se prolongeant dans l'autre, l'un dans l'autre. Mais ça n'a aucun intérêt, parce que, en réalité, les gens, je dirais que. Qu'est-ce que ça peut foutre, en fait? Quand on y réfléchit bien. Hein? Non, mais c'est très bien, mais c'est très scolaire, c'est important pour moi, curieusement, et en même temps, et pourquoi je le fais, tu vois ? C'est une espèce de goût du plein et du vide à la fois. Vous avez tout le sujet d'ailleurs de l'exposition, donc... Je crois aux fantômes. Je crois sérieusement aux fantômes. C'est-à-dire cette espèce de fait que les choses se prolongent sous une forme délétère. Il y a une espèce d'écriture qui persiste. Toute trace persiste. Ce qu'il y a, c'est que, on ne sait pas les lire, on ne sait pas les voir, ou les lire, ce qui revient même, et ces traces se transforment. C'est-à-dire qu'elles ont, elles ont une, à part à cette espèce de ce qu'on dit de la cause à effet, Il y a une espèce de transformation comme ça, de mouvement collectif, tout bouge. Mais ces traces, ces gestes qui ont été effectués à un moment donné n'ont pas disparu au sens véritable du terme. Ils sont là, toujours écrits, et se transformant suivant leur vie, leur vie court avec la nôtre. Tu vois, cette espèce de sentiment. Bon, pour en revenir à l'imaginaire, c'est vrai que dans ces doutes, on a envie de savoir ce qu'il y a dessous. Hein ? Pas toi ? Mais toi, tu sais ce qu'il y a dessous. Mais nous, on ne sait pas, mais on se dit, ah, mais il y a quelque chose là-dessous. Oui, il y a quelque chose, il y a... Peut-être il va s'y mettre quelques animaux qui vont commencer à... Des archéologues, des animaux archéologues qui vont en faire.
Et c'est le sommet de ces buts qui sera, d'ici 5 ans, interdit.
Oui. D'ailleurs, un peu inaccessible. Plutôt interdit, plutôt inaccessible qu'interdit, en fait. Ce qui est déjà différent, hein. Mais c'est une nuance.
Non, plutôt interdit qu'inaccessible.
Plutôt interdit qu'inaccessible, bon, d'accord. Il y a cette espèce de tracé comme ça, particulier, un petit peu île de Cythère, on sent déjà qu'on va folâtrer, voilà. Une espèce de lieu qui folâtre, c'est l'œil qui folâtre, évidemment, mais... On m'avait plusieurs fois demandé de faire, vous voyez mes sculptures. C'est vrai que, comme j'ai commencé par l'architecture, et que dans l'architecture, ce qui m'a passionné, c'est les études de maquettes, les maquettes, et même pas la maquette, c'était en fait de reproduire le terrain. Avant d'installer une architecture quelconque, il y avait déjà ce terrain, et les pentes, et les... Et parfois des inflexions qui étaient très faibles, mais qui, moi, j'avais un plaisir énorme à les représenter. Et beaucoup de mal à défigurer ça, ou à même à trouver, parce que j'étais aussi très, très jeune et très novice en la matière, mais trouver l'architecture qui saurait ne pas aller contre ça, mais vraiment y veiller. Le vivre intensément ou pas intensément, mais juste à la bonne mesure, disons. Profiter sans pas trop profiter, mais en profitant quand même, être là tout en laissant, enfin, je vois tout ce que je veux dire. Et donc, beaucoup de mes sculptures, un petit peu moins maintenant, mais à une époque, c'était ça, c'était comme c'était du paysage au sens même un peu basique du terme, même si c'était décor féminin, quelque chose, ou une féminité en tout cas, une féminité qui se dessinait, quelque chose de l'idée de l'accueil, du plaisir, de la jouissance des choses. Parce que je pense que la jouissance des choses, c'est justement pas vouloir les défigurer. C'est prendre vraiment ce qui est là. Il y a, et il y a à prendre, et ne pas, pas modifier. Apprendre à se modifier. Et donc, ces paysages avaient cette féminité comme ça, extrêmement forte. Et alors, toujours, on me disait, ah, mais ça serait bien si c'était très grand. Et qu'on puisse vraiment aller jusqu'à se promener dedans. Et, d'ailleurs, mes enfants, avec leur Lego et leur petit personnage, je ne sais plus comment ils appelaient ça, ils les installaient sur les sculptures et ils commençaient à jouer avec les bagnoles et tout ça. Ils habitaient les sculptures. Il y avait cette échelle des choses comme ça qui était très... Et ça, c'est très, très plaisant. Le fait que la réalité, elle superpose les échelles. Il y a l'enfant qui se met à quatre pattes et qui voit les petites fourmis qui se baladent. Il est émerveillé. Et pour la fourmi, la petite butte de terre devient une montagne. Il y a toute une histoire qui se raconte à une échelle toute petite. Et puis... Il y a une autre échelle qui est celle de la promenade, il y a celle de l'imaginaire, puis après, comme vous voulez installer le paysage à l'intérieur d'ici, le reconcentrer, l'ordonner, lui donner un sens pour qu'ici il vienne s'ordonner pour rééclater, en quelque sorte, comme ça, dans une espèce de mouvement. Eh bien, c'est des échelles, en fait. C'est faire passer un paysage d'une échelle à une autre, tout en ce qui soit quand même là. Je pense que je suis frappé quand je regarde le visage de quelqu'un que je ne connais pas, par exemple dans le métro à Paris, parce qu'à Paris, évidemment, on rencontre beaucoup de visages. On est comme ça dans cette espèce d'ivresse de l'homme et de ces rencontres d'inconnus. Et je regarde et je me dis, à l'intérieur de cet homme que je vois, que je contourne, il y a un univers. Il y a des millions de souvenirs, il y a une vie, et tout ça, que je ne vois pas, qui sont pas visibles, qui ne sont pas dehors, qui sont dedans, qui sont au moins aussi vastes que ce que j'ai pu appréhender de l'existence. Donc il y a mon monde, et puis il y a le sien. Tout d'un coup, on est là... On se regarde pas, mais enfin on est face à face. Et il est lui avec son monde et moi avec le mien. Dans le métro fait partie de ce monde, un petit bout du métro aussi fait partie du sien. On a un petit bout, on se partage comme ça. Il n'y en a pas un qui est plus vrai que l'autre. C'est quand même c'est fou ça, non? C'est complètement dingue. Quand on y pense, c'est complètement fou. Je pense que les mômes y rêvent énormément. Enfin, moi j'étais môme, j'ai rêvé là-dedans dans les jardins. Parce qu'en plus, quand t'es môme, c'est ça, t'as tes petits soldats, t'as tes petites bagnoles, t'as avec trois bouts de bois, tu te fabriques une cabane pour tes petits personnages. Le monde a une échelle très très présente. Puis après, tu retournes dans le jardin de ton enfant, tu dis, il est tout petit. C'est vrai, hein. Quand tu retournes sur les lieux de ton enfant, c'est incroyable, c'est petit. Même l'univers nous paraît petit, d'une certaine manière. C'est-à-dire, tu vois, on finit par prendre mentalement tellement de place. Quand on débarrasse un peu le plancher, hein, à un moment donné. On a occupé trop de terrain. Justement, dans ces ondulations comme ça, il vient mettre une espèce d'autorité. Moi, j'aime que par rapport à la raideur, mais avec un début d'ondulation, donc on notait tout à l'heure avec Florent, on disait ce mur déjà, il est un peu agité, il est déjà. Il danse, commence à danser un peu, donc il nous invite d'une certaine manière à le suivre. Là, il y a une danse qui est beaucoup plus manifeste avec le parcours, avec la roseraie, qui vient justement se plaquer contre le mur. il va y avoir une danse qui va se faire dans la verticalité aussi. Enfin, on peut l'imaginer, on peut le souhaiter. En même temps, c'est bien les lignes droites, mais bon. C'est pas toujours très bien quoi en faire, des lignes droites. Non, mais l'homme adore faire des lignes droites. Et en même temps, il s'y sent pas bien. C'est très curieux. Il y a quelque chose de très très particulier dans l'homme moderne qui aligne comme ça. C'est vraiment la manifestation de son autorité, c'est la ligne droite. Voilà. Dès qu'il a les Romains, bloum bloum, des lignes droites. Dès qu'il commence à avoir une espèce d'ambition comme ça, de domination, il crée de la ligne droite. Enfin, il crée de la ligne droite. Ligne qui cherche, tente la sinuosité malgré tout, mais l'homme continue avec, dans son obstination de la ligne droite. Et puis au bout d'un moment, il ne supporte plus. Au bout d'un moment, parce que tu vas dans les cités HLM, c'est insupportable. Ce qui est insupportable, c'est pas. Je ne pense pas que ce soit le nombre. Je ne crois pas que ce soit l'homme. Ce qui est insupportable, c'est c'est de l'avoir mis en ligne droite, de l'avoir concentré dans un lieu qui lui est. Qui le délimite. Alors, quand tu es délimité, c'est super si tu n'es pas très nombreux, mais si tu es un surnombre dans une délimitation, c'est insupportable. D'ailleurs, ce qui est très beau dans les jardins, très souvent, c'est cette recherche de l'absence de limites, de perdre les limites. Donc ces jardiniers qui ont toute une stratégie pour perdre les limites, alors que dès qu'on construit un bâtiment, on dit, là c'est le mur d'arête, et puis la maison fait ça, et t'as combien de mètres carrés? T'as une maison qui fait 100 mètres carrés, super, elle est carrée, là c'est crac crac, c'est des lignes droites qui se rencontrent orthogonalement. Et puis on va faire un jardin, on va dire, ah, mais là moi, je veux perdre les limites. Donc c'est vraiment, voilà, on est dans ce basculement. C'est intéressant, ces choses-là. Ce contraste. Ce qui prouve que les choses pas terminées peuvent être très belles. Les choses pas terminées sont belles, les choses érodées, ruinées sont belles, mais il y a un état. C'est l'état de l'escalier, si tu veux, entre le haut et le bas, tu vois. C'est cet état-là. Il y a un état qui est parfait. Or, c'est très difficile de conserver une ruine. Parce qu'elle est là comme ça, mais demain, il y a encore des pierres qui vont tomber, ça se trouve, toute la tour va s'écrouler. Et donc, tu ne sais pas. C'est justement ce qu'on n'aime pas dans la ruine. C'est cette espèce de fait que les choses changent. C'est menacé de disparition. Si ce n'était pas menacé de disparition, on accepterait la ruine. Je dirais, les doigts dans le nez. Mais c'est pas le cas. Et les choses pas terminées, on les trouve très belles aussi, parce que on a l'impression que on est dans la pensée de celui qui agit. Enfin, on regarde par le trou de la serrure, il y a une espèce de voyeurisme satisfait, qui n'est pas un voyeurisme en réalité, c'est un mot ridicule. Ça. On a besoin, on est curieux, on a besoin de cette curiosité. C'est normal. Donc là, on a une chance d'observer quelque chose en cours. C'est merveilleux. Je pense que l'extérieur, la réalité extérieure, c'est-à-dire cette espèce de grand mouvement qui nous entoure et qui nous baigne même, a la solution. Et donc il faut
attendre qu'elle passe.
Il faut qu'elle arrive. C'était une grande maturation collective. Et donc, c'est ça. Si tu ne veux pas faire n'importe quoi, tu es obligé de prendre ce temps. Parce que la précipitation, c'est forcément faire n'importe quoi. Et forcément. Alors, cela dit, il y a des êtres admirables qui ont le sens de décision juste. Ça, c'est quelques êtres qui sont des princes, qui sont venus, c'est des princes qui sont arrivés sur Terre. On a aussi quelques principautés personnelles. On arrive à quelques petites choses. J'adore, il y a des endroits en montagne où il y a une pierre qui est posée, comme ça. Tu appelles des cheminées des fées, je crois, ou un nom comme ça. Et tout s'est érodé, mais comme il y a une pierre dure, elle est restée comme suspendue dans l'air. Et alors, si tu en as une autre un peu plus loin là-bas, c'est en fait une couche. Donc il reste comme ça des tout petits, en pointillés, mais spatial. Extraordinaire. Et donc tu as comme ça la pierre par exemple du linteau qui reste. Tout s'écroule, il y a une pierre qui reste. C'est adorable en même temps. Cette fragilité est adorable. La fragilité des choses a quelque chose. On est condamné. C'est vraiment nous. Nous sommes. Je ne veux pas dire qu'on est des ruines, mais je veux dire que je n'irai pas jusque-là. Mais elle fait écho à nous. Elle nous renvoie à nous-mêmes dans notre. Elle nous renvoie à notre propre fragilité. C'est ce qui fait. Moi, je suis très séduit par les êtres fragiles, je veux dire. J'ai un goût personnel pour les êtres fragiles. En attendant de l'être moi-même, il ne va pas tarder. Ces grands arbres majestueux où ils restent parfois, ils sont. Il y a les corses, puis tu sens dès qu'il y a des oiseaux qui ont niché dedans. Il y a encore une branche qui vit, tu vois, malgré tout. Tu as des monstres qui arrivent avec une tronçonneuse qui coupe ça. Ils comprennent rien à la vie. Et quand est-ce qu'ils comprendront un peu quelque chose? Quand est-ce qu'ils comprendront. Quand est-ce qu'ils seront émus? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils n'attendent pas le dernier moment pour être émus, c'est nul. Bien sûr qu'ils le sont, émus, tôt ou tard, mais qui nous permettent de, quand même, qu'on ne patauge pas dans un monde de brut. C'est vrai. Donc oui, alors, bien sûr qu'on redoute les brutes. Je comprends très bien, mais je t'assure que j'ai peut-être eu l'air de dire du mal des architectes tout à l'heure, mais je me citais dans le nombre d'abord, et en fait, d'abord les choses ont bien changé, les esprits ont beaucoup évolué, et je suis persuadé que les démarches ont beaucoup, 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 beaucoup évolué. Il y a eu après-guerre ce besoin de construire du logement rapide, etc. C'était. Il y avait cette mentalité-là, elle a perduré très longtemps, et après ça a été la stratégie des grands ensembles et tout ça. Et ça a été terrifiant, ça a fabriqué de la délinquance, en veux-tu, en voilà. Et il y a des pauvres gens qui sont obligés de vivre dans ce qui a été bâti il y a 30 ans. 40 ans, on s'est rendu compte, c'est une folie. qu'on pouvait faire beaucoup mieux, pas plus cher en plus, je veux dire, parce que souvent c'était c'était prétendument des économies. Non, c'était... Non, c'est par économie, des jardins comme le vôtre ou comme celui que fait Jean-Marie sont des jardins qui ne sont pas coûteux. Ils sont simplement attentifs, ils ont été construits autrement, c'est tout. Ils n'ont pas été plus chers, moins chers, ça n'a rien à voir, ça c'est autre chose. C'est le choix d'une démarche d'esprit, c'est tout. Fini la leçon de morale. Bon ben, à part le vent, qui n'est pas forcément désagréable, mais qui est quand même sa présence un petit peu... je trouve que c'est quand même un problème. Je suis très sensible. C'est ce côté prometteur qu'a le... Hein. Non, mais c'est parce que vous abordez une grande surface d'un coup, donc faut aussi... vous avez du large. Hein, un petit côté... toundra, hein, petit côté toundra ici, petit côté Michel Strogoff. Hein, c'est du large.
C'est à cause de la barbe de Florent.
Sans doute, oui, c'est de le voir, à force de le voir, tout d'un coup il y a des trucs qui me... Il reste le dessin du lierre qui est quand même magnifique.
Ah ouais. Hein,
ouais. C'est pareil, voilà une chose qui est magnifique qu'on ne veut pas préserver. Mais c'est beau aussi les trucs éphémères. Il faut quand même s'habituer à la disparition.
Mais effectivement, c'est la première chose qui disparaîtra au moment de la restauration.
Ben oui, et puis oui, forcément. Et puis, de toute façon, ça disparaîtra parce que c'est
C'est moi qui l'ai coupé d'ailleurs.
Ouais, parce que dans son dessin, il y a encore le mur, il y a le dessin du mur aussi. C'est un peu comme la surface de l'eau. Il y a quelque chose en lui qui... On a abattu un bâtiment. Il y a un arbre qu'on avait planté. Celui-là on l'avait planté. Qu'on a planté contre... Donc le bâtiment, le mur. Et donc il a poussé, il a grandi, il est resté contre le mur, je dirais une dizaine d'années, peut-être pas, mais par là, quoi. Et on a abattu le mur, et l'arbre, il a continué à pousser comme si le mur existait. Il a, pendant 4-5 ans, il a continué le mur inexistant. C'est-à-dire que les branches n'allaient pas conquérir cet espace tout d'un coup laissé disponible. Puis tout d'un coup, il a franchi, mais pas tout de suite. Il y a eu une mémoire de ce... Tu vois, il y a eu comme... Et alors là, on en a abattu un autre, parce que nous, on abat beaucoup. On prend beaucoup et on réduit. Et il y a un autre arbre qui est dans les mêmes circonstances, le même phénomène. C'est pas du tout le même arbre, la même espèce d'arbre. Mais bon, alors lui, il dessine le mur parce que le mur est parti l'été dernier. Je voudrais voir quand est-ce qu'il va, à un moment donné, se rendre compte biologiquement que le... Ah ben, il n'y a plus rien. On peut y aller, en quelque sorte, tu vois. Et comme c'est lent, les décisions sont lentes à prendre, même chez les arbres. Et ça, cette espèce de truc là, de truc taillé par un troglodyte là, et de as mis deux pieds à droite.
C'est une ancienne porte.
Brut. Hein.
C'est une porte très ancienne.
Oui, ça, je veux bien croire.
C'est très ancienne, murée.
Et... avec un choix de cailloux, j'étais très, très étonné quand j'avais été en Grèce. Quand, évidemment, enfin, tous, on a... on nous décrit la Grèce et les temples grecs avec des proportions qui tiennent compte de la perspective, des trucs extrêmement chiadés. T'en as plein d'ouvrages d'architecture. Puis tu vas en Grèce, tu vas au temple, et là tu t'aperçois que ça a été fait parfois en dépit du bon sens. C'est-à-dire des pierres qui sont les plus fragiles ont servi de base, tu vois, ou des. Plein de choses qui vont pas. Et donc, on se rend compte que... j'ai pas été déçu. Je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus humains qu'ils n'étaient décrits. Ils étaient décrits comme des... On en a fait des espèces de... On les a idéalisés, ce qui n'est pas étonnant, d'ailleurs. On idéalise les civilisations anciennes. Et on a un peu fait d'eux des types capables de choses extraordinaires. Et sur le pris sur le fait, ils sont beaucoup plus faillibles qu'ils n'ont. Et j'étais complètement surpris de ça. T'as le temple de Jupiter, pas n'importe qui. Je prends un exemple au hasard. Donc le temple de Jupiter, t'as des pierres de base, c'est de la merde, c'est une mauvaise pierre. Il édifie une colonne. Évidemment, tu la vois par terre, la colonne. C'est normal, une pierre pareille, tu ne vas pas édifier. Donc, c'est très curieux, ça. Oui. Tu vois, c'est... Oh, l'homme est quand même surprenant. Même l'homme grec. Même le super-héros.
Même le grand sage grec.
Et là tu vois ces types de pierres comme ça où tu sens tout de suite que c'est pas de la bonne pierre.
Hein, c'est une catastrophe.
Même. Ça, c'est une pierre catastrophique. Mais alors, peut-être ça a été construit à la va-vite avec des pierres de récupération.
La pierre en occasion.
Là, c'est une pierre merdique. Et puis là, il y a une bonne pierre. Par contre, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Là, c'est un vieux pavé récupéré. Le type qui a fait ça, c'est un 5 mois. Manifeste. Un maçon de je ne sais pas d'où sorti. Enfin, vraiment, c'est une pierre qui va absolument pas. Qui n'est pas. Je n'y fais rien. Vous allez faire le coup à l'architecte du monument de France, lui dit cette porte, on y tient absolument.
Ce sera le grand test.
Même dans son état d'origine, on y tient. Bien emmerdé. Porte merdique. Non, c'est vrai. Regarde, mais même dans le dessin. Ça déborde. C'est vraiment catastrophique. Comme quoi, le bel ouvrage. Mais je veux dire, autrefois, il y avait du. C'est très important de garder ça comme témoignage que. À la même époque, tu avais dit qu'il travaillait bien. C'est important. Je ne vois pas pourquoi on est tout le temps en train de valoriser les réussites. Il faut aussi valoriser les échecs.
C'est juste. En fait, c'est juste que le temps a fait le tri. Le temps a fait le tri. C'est-à-dire que les trucs qu'on garde aujourd'hui, forcément, c'est ceux qui ont été bien construits. Quoi.
Ben oui, par principe, d'ailleurs, c'est ceux qui tiennent en général. Oui. Mais là, vous avez un beau témoignage de rattache.
Et tu vois, ben oui.
Oui, oui. Il me semble que c'est plus ou moins le même qui je revois les traces.
On sent bien sa patte.
Moi, j'aurais dit le proprio, j'aurais peur de boucher pour aller plus loin, mais bon.
Eh bien, tu vois, je l'avais jamais regardé comme ça, cette porte. Jamais.
C'est marrant, je parle du temple grec.
Non, mais t'as raison, parce qu'on a un respect forcément, enfin, je veux dire, pour... voilà, on a une sorte de respect comme ça pour, pour les traces du passé.
Voilà, on idéalise le passé.
Oui, effectivement, elle est juste merdique, ouais. Tu as bien raison de le dire.
Non, mais elle est couronnée par un geste, vraiment.
C'est le foutage de gueule, total. Les derniers pieds de nez.
Oh, putain, mais t'as qu'à mettre ça, là. Le geste le plus nul. Ouais, pas vraiment. Le gros bloc, ils prennent ce petit truc. Quand j'y pense, c'est vraiment... Il n'y a rien pour rattraper l'autre là-dedans. C'est vraiment... Vous pouvez dire, c'est vraiment le primitif qui a fait ça.
C'est clair, il y a quelque chose d'archaïsant.
Ah ouais, oui, là vraiment, oui. Oui.
Et bon, ouais. Oui, voilà.
Tout le monde n'a pas subi l'évolution en même temps. On se voit.